L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local de ce jeudi 29 avril. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Emma dans le studio. Salut Emma.
Salut Marie, salut tout le monde.
Et donc tu remplaces, alors je sais pas si remplace c'est pas un bon mot, mais tu vas essayer en tout cas de... Et pas essayer, c'est pas le bon mot non plus. En tout cas Claire n'est pas là aujourd'hui, donc tu vas prendre sa place pour m'aider un petit peu dans l'animation de l'émission. Et bien sûr, on retrouvera aussi ta chronique un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, de quoi tu vas nous parler?
Oui, on va parler tout simplement des gestes écolos à adopter pour cet été, pour garantir plutôt la préservation de notre environnement.
Très bien, donc à retrouver en fin d'émission, et puis avant on parlera de ce nouveau centre de spéléologie qui ouvrira ses portes à Gouron, ce sera à partir de 2022, vous aurez tous les détails, et puis de ces chiffres épidémiques qui sont très élevés à Château-Gontier, en tout cas au plus haut, on en parle aussi d'ici quelques minutes.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, avec 300 capteurs de CO2 dans tous les collèges mayennais.
Des mesures prises par le conseil départemental pour les 41 établissements qui rouvriront leurs portes aux collégiens lundi. Ces capteurs complètent le dispositif contre la Covid-19. Mis dans les classes, un voyant rouge s'affiche dès que la qualité de l'air n'est pas suffisante. Il faut alors aérer la pièce pour prévenir l'éventuelle propagation du virus. Ces capteurs de CO2 seront d'ailleurs mis à disposition de tous les maires de la Mayenne pour la tenue des élections départementales et régionale les 20 et 27 juin prochains.
Une vingtaine de salariés de la métallurgie en grève à Laval.
Ils se sont rassemblés ce matin, il y a une petite heure à 11h devant l'UIMM de la Mayenne à Laval, à l'appel de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie 53. Parmi leurs revendications, un salaire avec un SMIC à 1 800 € et des augmentations générales de salaire pour tous, les mêmes droits sociaux pour l'ensemble des salariés de la branche, l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la réduction du temps de travail à 32 heures semaine.
Le 1er mai, journée internationale des travailleurs et travailleuses approche.
Et oui, c'est samedi et en Mayenne, l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire appelle à un rassemblement à 10h par Vie des droits de l'homme à Laval. Elle se mobilise pour garantir les libertés fondamentales, l'emploi, mettre fin à la destruction systématique des services publics, notamment l'éducation nationale et l'hôpital public, et se mobilise aussi contre la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage qui pourrait pénaliser plus d'1,7 million de personnes.
Et après les parapluies à Mayenne, les fleurs à Château-Gontier.
L'initiative est menée par l'association de commerçants Castel Shopping. À l'occasion du printemps du commerce, les membres de l'association ont fabriqué des dizaines de fleurs colorées géantes, distribuées donc au commerce de Château-Gontier. Vous pouvez désormais les voir dans leur devanture, en attendant bien sûr leur prochaine réouverture.
Leur film 100% mayennais n'attend plus que la réouverture des salles.
Les castro-gontériens Isabelle et Dominique Rocher ont annoncé que leur film Solex dans les prés est prêt à être diffusé, malgré les retards à cause de la situation sanitaire. Mais en attendant de pouvoir le voir dans les salles obscures, ce road movie policier tourné dans une vingtaine de communes mayennaises, une bande-annonce a été postée pour vous donner un avant-goût. Elle est visible sur YouTube sur le compte de Dominique Rocher.
Cyclisme, Arnaud Démard sera aux boucles de la Mayenne.
Et oui, le champion de France et sprinteur de la Groupama FDJ a dévoilé hier son programme sur la chaîne L'Équipe. Il participera donc aux boucles de la Mayenne, ce sera du 27 au 30 mai, puis à la route d'Occitanie, au championnat de France, avant de s'élancer pour le Tour de France et de revenir donc en terre mayennaise le 30 juin, à l'occasion du contre-la-montre entre Changé et Laval.
Et Marie, les chiffres de l'épidémie n'ont jamais été aussi hauts dans le pays de Château-Gontier.
Ah oui, le taux d'incidence avoisine les 430 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants et le taux de positivité s'établit à 15% sur le territoire, avec un variant britannique largement majoritaire autour de 90%, une situation qui a poussé Philippe Henry, le président de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, à tirer la sonnette d'alarme.
L'enjeu, c'était de sensibiliser l'ensemble de nos populations, de nos acteurs économiques, de nos secteurs aussi du commerce, par rapport effectivement à cette montée sur le secteur du pays de Château-Gontier, pour faire en sorte aujourd'hui qu'on renoue avec les gestes barrières, même si quand même on a le sentiment que les gens sont quand même plutôt respectueux, mais qu'on soit encore beaucoup plus vigilants qu'on ne l'était hier, pour faire en sorte qu'on puisse mettre un coup d'arrêt à cette montée de taux d'incidence et qu'on soit en capacité de retrouver des taux comme on a pu les connaître, hein, de 96 ou 200 pour 100 000 habitants, parce qu'on sait que ce sera la condition là aussi sine qua non pour permettre à nos commerces de réouvrir et aussi à nos restaurateurs. Une des explications, c'est des taux très très élevés, notamment sur le secteur est de notre territoire et qui pourrait avoir une sorte de perméabilité avec le secteur du pays de Château-Gontier. Donc ça, c'est une première explication. Et on a quand même une tranche d'âge sur les 15-35 ans qui, semble-t-il, est assez porteuse et assez contaminante, puisqu'on a un taux de reproduction de 1,7, c'est-à-dire qu'une personne contamine 1,7 personnes. Donc c'est quasiment un doublement de la contamination. Et donc sur cette tranche d'âge-là, il faut vraiment maintenir les gestes barrières et maintenir là aussi les précautions qu'on prend depuis maintenant très longtemps pour faire en sorte qu'on évite ces niveaux très élevés de contamination. Moi, c'est la demande que j'ai formulée auprès de l'ARS, c'est de profiter en quelque sorte de la réouverture des collèges et des lycées pour avoir une action coup de poing sur la question effectivement du dépistage et qu'on puisse isoler surtout ceux qui seraient porteurs et qui pourraient être effectivement risque de contamination. Une des clés du déconfinement, ce sera peut-être d'avoir une vision un peu territoriale, d'ailleurs celle qu'on a réclamée depuis très longtemps, pour dire on ne doit pas prendre une mesure de Paris pour l'ensemble du territoire, mais pour avoir une appréciation départementale. Une des pistes de lecture, ce sera effectivement la situation sanitaire du territoire. Donc pour qu'on puisse être dans le train, premier train du déconfinement, l'enjeu c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse faire baisser les chiffres. On n'a qu'une seule responsabilité les uns les autres, c'est de faire en sorte de redoubler d'efforts sur ces gestes barrières.
Philippe Henry rappelle aussi l'importance du dépistage. Vous pouvez d'ailleurs vous faire tester ce jeudi de 16h à 19h à Château-Gontier, à la halle du Haut-Anjou, ou aux mêmes horaires à Laval, à la salle du Palindrome. Demain, le bus de la protection civile fera halte à Saint-Denis-d'Anjou de 10h à 16h sur le parking du théâtre de verdure de Buxheim, à côté de la mairie. Un centre dédié entièrement à la spéléologie qui ouvrira ses portes en 2022 à Goron. Oui, oui, il se sera bien le cas en tout cas. On en parle justement avec l'un de ses créateurs et de ses initiateurs, Daniel Demimuy. Ce sera juste après London Bound de Lucie Spragan. What's underneath the lining of these suits? We're motivated by the same thing with a different point of view. I close my eyes and count to three to get away from this old street to somewhere I would rather be. I'm playing shows down in Delaware.
Close my eyes and count to one, two. I'm playing shows down in Delaware. I'm
London Bound de Lucy Spragan dans l'AJT du local. Et puis on en parlait tout à l'heure, l'ouverture d'un centre dédié entièrement à la spéléologie et au monde souterrain. C'est ce qui devrait ouvrir en 2022 à Goron, avec une formule unique en France donc, puisqu'elle allie initiation à la spéléologie, donc l'aspect sportif de la discipline, et découverte biologique et historique autour du monde souterrain. C'est un projet mené par la mairie de Goron et impulsé par Daniel Demimuy, président de l'association Aventure Spéléologie Développement 53 et président aussi du comité départemental de spéléologie.
Alors à l'origine, nous avons réalisé depuis 2009-2010, avec les associations du département, des stands d'animation pour faire connaître la spéléologie en Mayenne. Donc la fête de la science notamment, c'était vraiment, on a aussi les journées nationales de la spéléologie et du canyon maintenant, mais vraiment la fête de la science, c'était une occasion de populariser, je dirais, la spéléologie et d'en montrer tous ses aspects, pas que sportifs ou pas que une activité, entre guillemets, dangereuse pour le public, mais de faire ressortir l'attrait par rapport à la préhistoire, par rapport à la biodiversité aussi, donc les activités scientifiques amateurs qu'on peut découvrir autour. Et en 2014, suite au succès qu'on avait eu justement avec une petite caverne mobile ou des stands d'animation, j'ai eu l'idée de trouver un entrepôt pour installer un complexe artificiel qui permettrait à des écoles, des collèges, tout public, de découvrir la spéléologie de manière entre guillemets virtuelle ou un peu synthétique, pour amener aussi le public vers de vraies grottes. Et donc, j'ai rencontré à l'époque, en 2014, Jean-Marc Alain, qui était alors conseiller départemental et président de la commission jeunesse notamment, pour lui demander s'il n'y avait pas un entrepôt désaffecté du département où on pourrait installer une structure. Donc, il m'a demandé des précisions sur ce projet. Et quand je lui ai présenté mon idée d'avoir un projet avec quatre salles reliées par des galeries et des boyaux, où on pourrait à la fois crapahuter un petit peu et puis une partie plus sportive sur corde, s'initier aux sciences, peut-être avoir des expositions temporaires, peut-être faire du virtuel. Il m'a dit, mais moi, ça m'intéresse, sur ma commune à Goron, j'ai déjà un parc de loisirs, la Colmont, avec un parcours acrobranche et des projets de valorisation de ce site. Donc, on a décidé de pousser l'idée un peu plus loin et d'examiner tout ça. Et en fait, on a vraiment décollé un petit peu sur l'idée et sur les contours du projet à partir de 2017. Ça a commencé déjà à prendre tournure avec des contacts que j'avais eus sur certaines entreprises qui étaient capables de construire en clair des structures avec un décor naturel suffisamment réaliste et qui pouvaient aussi se monter en kit de façon à ce qu'on ait un projet évolutif. Et la Covid est arrivée par là-dessus. Je dirais que ça a mis un petit coup de frein sur la concrétisation. Et donc, nous avons repris le dossier, en clair, pendant le confinement, comme on a pu. Et c'est il y a à peu près trois semaines, le conseil municipal a voté finalement la validation de ce projet.
Et c'est, comme vous venez de le dire, un gros projet avec vraiment toute cette alliance entre l'activité sportive et puis l'aspect, plus connaissance au niveau de que ce soit de la préhistoire et des modes de vie à cette période, etc. À quoi ça va ressembler ? Est-ce que c'est vraiment dans un lieu déjà naturel ou est-ce qu'il y a vraiment tout un aménagement ? À quoi il ressemblera ce centre ?
C'est une structure qui sera construite de matériaux composites. Vous entrerez dans une vraie fausse grotte, si on peut dire, et vous allez pouvoir parcourir des galeries qui seront en partie accessibles au public handicapé. Une galerie, c'est un passage plus ou moins haut, mais dans lequel vous passez debout. Vous aurez donc trois salles qui seront dédiées chacune à une thématique. Donc, on aurait, comme je le disais, une thématique préhistoire, une thématique biodiversité, une thématique formation des grottes, avec le rôle de l'eau, la géologie, etc. Un quart du département est calcaire et ça représente quand même deux tiers de l'eau au robinet. Donc, c'est quand même intéressant de voir que les calcaires sont des réserves en eau. Et puis, la quatrième salle sera en fait un petit gouffre de 10 mètres de haut quand même, qui permettra une pratique à la fois pour les spéléologues, mais aussi tout public, d'initiation. De perfectionnement, sur corde, pour aussi de la formation professionnelle, puisque vous avez pas mal de métiers qui ont besoin d'activités sur corde, les élagueurs, les cordistes, les travaux en hauteur, les pompiers, et puis gendarmerie, parfois aussi pour tout ce qui va être les exercices secours en milieu souterrain, et puis les entraînements aussi de l'armée. Hein, ça leur arrive de venir, par exemple, sur Sauge également, pour s'entraîner ou pratiquer. Donc voilà, c'est un complexe qui veut à la fois valoriser le côté ludique, puisque au-delà des galeries, on aura une série de boyaux. Alors, c'est des conduits plus petits. En général, on se déplace à quatre pattes, un peu en 3D, hein, et qui nous permettront, ces petits boyaux, de rejoindre soit une galerie, soit une salle. Un peu comme, si vous voulez, les pistes de ski où vous allez de la piste blanche à la piste noire, hein, donc différents, ou les voies d'escalade, hein, donc des difficultés différentes, ce qui permet à tout le monde de pratiquer. L'idée étant aussi qu'on ait envie d'y revenir. C'est pour ça qu'autour de la structure elle-même, qui devrait comporter à peu près 300 mètres carrés de salle et 100 mètres linéaires de boyaux et de galeries, ce qui est un début, mais c'est déjà un projet ambitieux. On aura la possibilité par la suite, si, en fonction du succès du développement, de prévoir éventuellement des extensions, puisque ce qu'on imagine, c'est une structure qui puisse être justement évolutive. Ce qui est important, c'est qu'on a au sud du département le site des Grottes de Sauge, hein, avec son musée de la préhistoire, etc. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de pouvoir faire découvrir dans notre site, sur notre site à Goron, la spéléologie et tous les contours de l'initiation et de la découverte de l'environnement souterrain, et puis d'amener les gens éventuellement sur Sauge pour voir de vraies grottes, etc. Inversement, pour le public qui connaît déjà les grottes de Sauge, ça peut être intéressant d'avoir des compléments d'informations sur d'autres thématiques et qui seront présentes sur notre site. En plus, la situation géographique de Goron est intéressante puisqu'on n'est pas loin, c'est un outil d'envergure régionale au niveau de la population, puisqu'on n'est pas loin d'Alençon, pas très loin de Caen, presque à côté de Rennes, de Vitré, Laval bien sûr, Le Mans, Angers. Donc en fait, on a déjà ce rayonnement-là avec les grottes naturelles puisque nos publics sont aussi bien sur Sauge, sont aussi bien bretons que des pays de la Loire, voire du centre ou au-dessus de la Normandie. Parfois même, il y a des publics parisiens alors, qui viennent plutôt pour initialement pour l'escalade, hein, dans le département. Donc on a l'avantage d'avoir un beau réseau karstique, un patrimoine qui reste méconnu et donc un site qui peut permettre de rassembler un bassin de population important. En plus, c'est un projet expérimental qui est unique en France sous cette forme-là. Nous souhaitons attirer tout public et sur un projet de ce type, il y en a un peu partout en Europe, hein, et aux États-Unis, des structures de ce type qui allient, je dirais, le ludique et la formation ou l'éducation, ou l'éducation populaire en fait, hein, c'est apprendre en s'amusant, s'amuser en apprenant, voilà. Donc ça n'existe pas en France. Comme je le disais, à terme, on voudrait reproduire en virtuel de vraies grottes mayennaises pour permettre à des publics qui n'auront jamais l'occasion de le découvrir, de pouvoir voir un peu ce patrimoine qui est remarquable. On a des cavités qui ne sont pas toujours accessibles au public, soit parce qu'elles sont sur des terrains privés ou que les propriétaires ne souhaitent pas populariser, je dirais, ce patrimoine-là. Même sur les cavités, sur des domaines publics, toutes ne sont pas visitables. Donc, il y a vraiment une possibilité là d'attirer tous les publics, soit concrètement par la pratique, hein, sur nos terrains un peu accidentés, là, artificiels, ou alors par le virtuel, cette possibilité de découvrir également. Et de revenir un peu comme vous allez à la piscine le dimanche, l'idée c'est de pouvoir aussi avoir envie de venir sur ce centre qui sera ouvert tout au long de l'année en fin de compte.
Et notamment aussi, vous le disiez, sans doute pour les scolaires, puisque certains ont déjà en tout cas exprimé leur intérêt par rapport à cette future structure.
Oui, voilà, ça peut permettre de développer des cycles qui se conjugueront avec l'enseignement dispensé hein, dans les écoles, les collèges notamment qui sont visés, écoles primaires et collèges, où on peut organiser une sortie finalement annuelle, tout comme imaginer un cycle de quelques séances, soit sur la biodiversité, soit sur le cycle de l'eau, puisque bon, c'est pas le seul vecteur, je dirais, de formation des crottes, l'eau, mais l'eau joue un grand rôle de sculptrice hein, des cavités. Donc on a le cycle de l'eau, le cycle de l'oxygène, le cycle du dioxyde de carbone. Donc tous ces cycles-là font l'objet d'enseignements. Donc on a à la fois les sciences et en même temps la pratique de l'éducation physique. On imagine avoir au moins une première tranche, on en avait prévu trois, une première tranche qui serait opérationnelle en 2022.
Donc le centre, en tout cas, ouvrirait ses portes en 2022, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, de ce que j'ai compris, d'avoir un calendrier plus précis.
Oui, au niveau des partenaires, pour les réunir et se mettre en phase avec les souhaits et les besoins de chacun, que ce soit les besoins des SPDO, les besoins de l'éducation nationale ou encore ce qui peut représenter le tout public. Pour l'instant, donc, il y a encore un certain nombre de calages à faire qui n'ont pas pu se faire à cause de la crise Covid, des confinements, des déconfinements.
Et il y a peut-être aussi, du coup, le gouffre. J'imagine que c'est une salle qui va prendre plus de temps à faire que les trois autres, peut-être. Est-ce que vous avez une idée, du coup, de quand elle pourra ouvrir?
Ça serait la tranche suivante. Mais, si vous voulez, techniquement, ce n'est pas plus difficile à construire, puisque, en fait, ça aura la forme d'une grotte dont le toit, si vous voulez, est assez, élevé. Et qui dont l'accès se fera, donc ce sera un gouffre mais couvert, hein, on n'aura pas une sortie à l'air libre, tout simplement pour les questions de ventilation et d'entretien hein, de la structure. Vu l'avancement du projet, ce sera au plus tard en 2023, je pense qu'on aura l'ensemble de la structure opérationnelle.
Et donc l'idée, ce sera aussi bien sûr de pouvoir expérimenter, tester la spéléologie. Est-ce que l'objectif aussi pour vous, alors pas que, mais ce serait aussi de, si possible, avoir aussi attirer des nouveaux licenciés grâce à cette structure?
Dans les effets, si vous voulez, l'impact, il y a deux choses. Il y a le développement personnel des personnes qui viennent là. Vous savez que le milieu souterrain est à la fois attractif et source d'inquiétude. C'est le noir, c'est toutes les peurs de l'enfance aussi, hein, la peur des monstres, etc. Donc, nos chers petits monstres à nous sont toutes des espèces protégées. Donc, c'est aussi réconcilier le public avec les chauves-souris. Parce que, je dirais même la crise Covid, hein, on n'a pas fait beaucoup de publicité comme vecteur possible de virus pulmonaire, etc. Nous, les nôtres sont toutes insectivores, toutes petites, très utiles, puisqu'elles mangent notamment énormément de moustiques. Hein, donc, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi sur la faune des cavernes, qui est une faune intéressante dans la mesure où c'est soit une faune relique qui trace un peu les variations du climat, mais une faune aussi qui va être très sensible aux pollutions. Donc, qui est à la fois fragile, rare, et donc qui est intéressant. Donc, on a déjà l'ambition, au niveau individuel, de pouvoir faire découvrir vraiment toute la richesse de cet environnement-là, que ce soit géologique, évidemment, puisque l'eau est capable de sculpter des reliefs assez extraordinaires souterrains. Et j'avais oublié votre question initiale. Oui, si on peut augmenter le nombre de licenciés en Mayenne, en spéléologie, dans notre association ou dans l'ensemble des associations du département, évidemment, ça sera un plus. L'idée, c'est bien aussi de développer, de faire connaître le patrimoine mayennais, mais aussi d'en sortir et pour découvrir aussi le patrimoine français, notamment, voire au-delà, évidemment, sur tout le milieu karstique, calcaire, qui est très riche à la fois en France et à l'étranger. Donc là, c'est, je dirais, la dernière possibilité qu'on ait d'aventure et de découverte de l'inconnu. On ne connaît que 20% à peu près du réseau mondial. Et donc, avec les océans et le spatial, nous sommes quasiment devenus les seuls explorateurs et exploratrices.
Tout un monde à découvrir via ce complexe. Soutenu financièrement par l'Union européenne, l'État et la communauté de communes du bocage mayennais, un financement participatif en ligne pourrait aussi être lancé lorsque le centre sera ouvert à Goron. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Buzzy Line de Rose Murphy.
I put a nickel in the telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time I tried, I got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, left a message with the baker, even checked the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried, to my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine, busy kissing someone else, while I was keeping busy getting a busy line. Da, 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 busy line. Just busy line. Boom, ba, do, dee. Da, 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 da. Just busy, 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 busy line.
Dans l'agité du local. Place désormais à la chronique d'Emma. Et Emma, aujourd'hui, tu nous proposes une chronique sur les gestes du quotidien qui permettent de prendre soin de notre environnement. Et promis, il n'y a rien de difficile là-dedans.
Et oui Marie, puisque les beaux jours arrivent, et si c'était le moment de se mettre ou de continuer les bons gestes écolos qui permettent d'aider notre environnement ? Car quand on arrive vers l'été, on peut avoir envie de profiter du beau temps pour, par exemple, tondre son gazon. Mais que faire des déchets de pelouse coupés ? Eh bien, au lieu de les jeter, vous pouvez en faire du paillis pour vos parterres ou le potager, le mieux étant de le laisser sécher avant de s'en servir. Cela peut aider à garder la fraîcheur et l'humidité, mais le mieux étant quand même de laisser les fleurs sauvages pour que les différents insectes puissent polliniser. Et en parlant de gazon, est-ce vraiment nécessaire de gaspiller des dizaines de litres d'eau pour l'unique but d'avoir une pelouse verte en toutes circonstances? Et évidemment, on évite le traitement du gazon avec des produits chimiques qui se retrouvent dans nos sols et dans les nappes phréatiques par la suite. Pour les haies maintenant, si vous coupez vos haies, vous pouvez récupérer ces déchets verts en les broyant pour en faire du paillis qui permet toujours d'économiser de l'eau. Les haies abritent de nombreuses espèces et pour les préserver, il ne faut pas les tailler ou les élaguer entre avril et jusqu'à fin juillet afin que les oiseaux puissent construire leur nid et par la suite élever les oisillons. Et pour préserver les insectes qui permettent la pollinisation des fleurs, n'hésitez pas à fabriquer des hôtels à insectes que vous pouvez exposer sur votre balcon ou dans votre jardin. Souvent très facile à fabriquer, il existe beaucoup de tutos sur internet. Et si vous pensez à prendre un composteur, c'est le moment, puisque Laval et ses agglomérations proposent une aide à l'achat jusqu'à 40 euros. Et saviez-vous que dans le total d'ordures ménagères, un tiers est composé d'ordures compostables qui sont juste jetées avec le reste alors qu'ils pourraient être réutilisés dans le potager ou mélangés à la terre pour l'enrichir, étant un engrais naturel et éviter d'acheter des fertilisants chimiques. Et pour ce qui est compostable, eh bien on retrouve les coquilles d'œufs, les épluchures, les feuilles mortes, mais pas de viande ou les os, on privilégie donc les matières organiques mais végétales. Pour ce qui est du plastique, c'est le moment de se mettre à la gourde. Les gourdes réutilisables et donc non en plastique, on en trouve beaucoup et de toutes les couleurs. Il y en aura forcément une qui vous plaira. Et donc voilà, maintenant vous avez plein de petites astuces pour avancer en faveur de l'environnement pour l'été qui arrive, lentement, mais qui arrive quand même.
Oui, oui, alors on n'est pas sur des températures estivales aujourd'hui, mais effectivement, non. La gourde, ça pourrait toujours être pratique. Merci beaucoup Emma pour cette chronique. Si vous n'avez pas tout noté, en tout cas, pour tous ces bons gestes écolos à faire aussi bien dans son jardin que dans son quotidien, que ce soit pour le composteur ou la gourde, eh bien vous pourrez la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr, évidemment. Regardez dans l'agité du local. C'est l'heure désormais de la rubrique initiative. Et puis tiens, un autre bon geste à faire. Si vous jetiez encore vos bouchons en plastique, arrêtez ça tout de suite, déposez-les plutôt au centre social Le Trait d'Union à Évron. Une grande collecte est organisée sur place en partenariat avec l'association Bouchons d'Amour 53. Les bouchons sont récupérés, fondus, transformés en granulés plastiques pour en faire notamment des poubelles ou des pare-chocs de voitures. Et l'argent récolté permet de financer du matériel pour les personnes handicapées. Renseignements auprès du centre social Le Trait d'Union au 02 43 01 63 22. Et elles font leur retour dans les vitrines vides du centre-ville de Goron. Les poupées issues de la collection de Marie-Annick Paillard sont mises en scène dans différentes scénettes. Changement de décor par rapport à la première fois, elles ne sont plus à l'école ou à l'église, mais dans une ferme ou autour d'une mare par exemple. Bref, dans un décor bien plus champêtre, à voir notamment dans les vitrines situées rue de la Mairie et rue Magenta, notamment, entre autres. Je vous laisse donc découvrir tout ça. Et c'est déjà la fin de cette émission L'Agité du local que j'ai animée donc avec Emma aujourd'hui. Merci beaucoup Emma.
Merci Marie et merci tout le monde.
Et on se retrouve évidemment d'ici une dizaine de jours à peu près. Merci. C'est donc, on l'a dit, la fin de l'émission L'Agité du local pour aujourd'hui. Mais vos émissions préférées, elles, à l'antenne, continuent. À 19h, il y aura la sagesse de Tugue autour d'une grande question à chaque fois, vous le savez. Et ce soir, ce sera l'exercice de la philosophie contribue-t-il au développement de la démocratie ? Ce sera suivi à 21h de l'émission All Blues. Nous, on se retrouve donc demain pour la dernière émission de la semaine à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.